Bonjour à tous. Il n'y a pas que le 8 mars, eh bien, parce qu'en une journée, on ne peut pas célébrer toutes celles et tous ceux qui font avancer les droits. Eh bien, on en rajoute un petit peu, chaque mois, sur Radio B. Nous avons échangé le mois dernier avec des hommes au sujet du féminisme. Eh bien, en ce mois de juin, nous consacrons entièrement, il n'y a pas que le 8 mars, à un homme, oui, à un homme qui prend soin des femmes, qui les soigne, les écoute et travaille pour faire bouger le système de soins en France. De passage à Bourg, Martin Vinclair a mené une causerie autour de la mort assistée. C'est aussi une de ses batailles de médecin. Merci à Vianney Perrin, qui est médecin à Flériat et qui travaille dans le service des soins palliatifs à Bourg, d'avoir servi d'intrometteur, si je peux m'exprimer ainsi. Une discussion en toute simplicité où nous aborderons de nombreuses facettes de la santé des femmes, des réflexions critiques aussi sur ce que Martin Vinclair appelle les brutes en blanc, et c'est aussi un des titres d'un de ses romans. Médecin généraliste Marc Zaltan, Martin Vinclair, de son nom d'auteur, dit que la douleur, une fois qu'elle a fait son travail, c'est-à-dire une fois qu'elle a révélé un problème, un dysfonctionnement, qu'elle a tiré la sonnette d'alarme, eh bien cette douleur n'a plus lieu d'être. Et que faire souffrir ou laisser une personne dans la souffrance, c'est être maltraitant, c'est exercer une violence et que c'est inacceptable. Alors inacceptable aussi les violences qui sont faites aux femmes dans les pays où les femmes sont sous la tutelle des religions et des traditions. Inacceptable aussi la violence faite aux femmes qui vivent aux États-Unis. On parle en ce moment de Géorgie, de l'État de la Géorgie et de l'Alabama, mais j'ai lu tout récemment que sur 50 États des États-Unis, 28 États qui sont des États du Sud et qui principalement sont des États qui sont très réactionnaires et conservateurs, ont adopté plus de 300 articles qui dérèglent le droit à l'avortement et du coup qui limitent celui-ci. Inacceptable tout ça.
De coquet en lissant ses plumes sur l'arbre qui se balance au gré d'un souffle nocturne plus loin. Un homme travaille soucieux de ne pas faiblir soudain. La machine avale ses doigts trop longs à s'enfuir plus loin. Un colleur d'affiche reçoit quelques coups de trique pendant une star déprimée sans taille les fesses. Un oiseau bavard de secours, sa tête fragile me dit, apprendrez-vous jamais à conjuguer au présent le verbe soleil.
C'est un extrait de Soleil, chanté par Mama Béa, l'ovni de la chanson française comme elle aime à se définir. Sur Radio B, donc aujourd'hui, il n'y a pas que le 8 mars, conversation à trois, Élodie Gadiolet, Joël Garraud, Martin Vinclair. Marc Zaffran, vous êtes aussi connu sous le pseudonyme de Martin Vinclair, votre nom d'écrivain, vous vivez à Montréal depuis un peu plus de 10 ans. Médecin généraliste, diplômé de la faculté de médecine depuis 79 ?
Non, un peu plus tard, 81. Mais enfin, c'est...
D'accord. Pareil. Vous avez écrit plusieurs livres sur le monde médical, dont La maladie de Saxe, qui a été primé. Ça a été un gros succès, adapté au cinéma par Michel Deville et avec Dupontel. Vous avez travaillé 10 ans comme médecin généraliste ?
À la campagne. Mais 25 ans à l'hôpital.
Mais 25 ans dans un centre de planif, c'est
non,
ça?
Non, c'est un centre de planification.
Oui. Voilà, vous avez formé pendant quelques années des étudiants en gynécologie à la fac de médecine?
Non, je l'ai fait à l'hôpital. J'aurais voulu le faire à la fac de médecine, mais on ne peut pas laisser.
D'accord. Alors, j'allais vous demander si c'était tout juste. Ben non, ce n'était pas tout juste. Et en fait, voilà, quel constat faites-vous de la gynécologie en France?
Oh là, mon Dieu, vous avez combien d'heures devant vous?
Pas tellement,
enfin,
mais...
Je fais pas un constat. Moi, en fait, ce que j'ai pu observer, c'est que Et quand j'étais au centre de planification, donc pendant 25 ans, c'est que le moins qu'on puisse dire, c'est que les femmes qui arrivaient n'étaient pas très heureuses de la façon dont elles étaient traitées, quoi. C'est presque un euphémisme de le dire. La médecine en général en France, hein, mais c'est un reflet de la société, la médecine française, comme la société française, est extrêmement sexiste. C'est-à-dire paternaliste, confinant au sexisme, c'est-à-dire paternaliste avec les femmes, parce que les femmes, c'est les femmes. Hein, bon. Et sexiste tout simplement parce que tout ce qui relève d'une demande, d'une attente de soins, d'attente et d'appréhension qui me paraissent parfaitement légitimes, est qualifié ou disqualifié plus exactement parce que ça vient des femmes. Il faut rappeler quand même que la médecine a été exercée par des hommes principalement pendant extrêmement longtemps. Et qu'avant d'être exercée par des hommes, elle était en plus exercée par des hommes qui étaient des prêtres. C'est-à-dire que les médecins ne sont devenus laïcs qu'à partir de la Révolution française. Mais le dogmatisme religieux, le dogmatisme tout court, enfin, de la société, s'est toujours cristallisé parmi les médecins qui font quand même partie des couches les plus hautes de la société et qui reproduisent les préjugés ambiants les plus répandus, et en particulier les préjugés sexistes.
Vous tenez un blog martinvinclair.com. Des femmes vous écrivent et livrent leurs histoires depuis plusieurs années.
Depuis 2003, oui.
Vous avez écrit aussi le livre Le cœur des femmes à partir de ces témoignages. Qu'est-ce qui les pousse, selon vous, à s'adresser à vous?
Alors, heureusement, elles ne s'adressent plus seulement à moi. Maintenant, il y a beaucoup de personnes à qui elles peuvent s'adresser, en particulier des associations de femmes et des groupements de femmes. Et il y a les réseaux sociaux qui ont beaucoup changé les choses depuis 10 ans. Ce n'était pas comme ça tout à fait encore en 2003, c'est pour ça qu'elles m'écrivaient, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais en gros, c'était la première fois qu'elles voyaient, et ça c'est à partir du livre que j'ai écrit, Contraception, mode d'emploi, c'était la première fois qu'elles voyaient, elles avaient affaire à un professionnel de santé qui ne prenait pas leur demande à la rigolade, qui pensaient que leur opinion par rapport dans le choix d'une contraception, était parfaitement défendable et légitime. Moi, j'ai toujours pensé que la meilleure contraception, c'est celle que la femme choisit. Il faut lui donner toutes les méthodes en répondant à toutes ses questions. Et après, elle prend celle qui lui convient à ce moment-là, qui peut être tout à fait appropriée à ce moment-là et puis qui peut changer après. Mais en tout cas, ça ne peut pas être le médecin qui décide pour elle puisqu'il ne vit pas sa vie. Et donc, je pense que ce qui se passait, c'était ça, c'est qu'elles avaient affaire pour la première fois à quelqu'un qui leur délivrait des informations sans délivrer de jugement, qui disait que c'était à elles de faire leur choix de vie parce que c'est leur vie, c'est pas la sienne, et qui, troisièmement, disait, si vous avez des questions et que je peux y répondre, posez-les-moi, en disant, par exemple, il n'y a pas de questions stupides, il n'y a pas de questions négligeables, il n'y a pas de questions qui vont attirer un rire ou un regard de mépris.
Moi, pendant longtemps, je suis allée chez le gynécologue comme on emmènerait une voiture au garage, ouais, en fait, ouais. Faire une petite révision technique. Et justement, ça me paraissait tellement technique, comme chez le garagiste, que je posais aucune question. Mmh. En fait, la gynécologie, n'importe quelle consultation chez le médecin, c'est avant tout une conversation.
Bah, ça devrait être une conversation. Et surtout, c'est, vous n'êtes pas une machine. Vous êtes une personne agissante, un sujet. Et donc, la moindre des choses, quand vous entrez, c'est d'abord que la personne qui est en face de vous vous montre son respect, vous remercie de la confiance que vous lui accordez en lui confiant parfois des choses extrêmement personnelles, extrêmement intimes. Et ensuite, ne vous traite pas comme un objet ou comme une machine, comme une voiture, mais par exemple, quand il pense que ça peut être utile de vous examiner, qu'il vous demande votre autorisation, parce que ça ne va pas de soi.
Pas du tout.
Voilà. Vous avez la possibilité tout à fait de dire « je ne veux pas qu'on me touche » et ça ne décharge pas de son obligation d'essayer de vous soigner s'il y a des soins à vous donner. Et puis, il est en devoir de vous expliquer absolument tout ce qu'il fait. Il est en devoir, encore une fois, de demander votre accord pour faire un geste supplémentaire. Ne serait-ce que vous examinez, bien sûr, mais s'il veut faire un geste qui est faire un frottis ou n'importe quoi... C'est pareil, enfin, il faut qu'il vous prévienne, il faut qu'il vous demande votre autorisation, il faut qu'il fasse attention à la façon dont vous le ressentez, et puis qu'il vous donne toutes ces informations qu'il a recueillies pour que vous preniez une décision par rapport au problème pour lequel vous êtes venu. C'est pas à lui de prendre la décision. Évidemment, il a une opinion, évidemment, il a un savoir-faire, évidemment, il a des propositions à vous faire. Mais in fine, c'est à vous de prendre la décision. Et cette décision, quand c'est une décision qui est un peu épineuse, qui a plusieurs possibilités, et que vous choisissez l'éventualité qui n'est pas celle qu'il aurait choisi lui s'il avait été à votre place, il doit la soutenir. Il ne doit pas vous dire « Ah non, madame, si c'est ça, faut pas venir me voir. Non, il n'a pas le droit de faire ça. » Le problème, c'est que les professionnels de santé en France, pendant très longtemps, ça commence à changer, parce qu'il y a des jeunes générations, des gens qui enseignent différemment maintenant. Pendant très longtemps, les professionnels de santé en France étaient formés à se comporter de manière paternaliste, c'est-à-dire, entrez, allongez-vous, je vous examine, ce sera ça, ça fait 35 euros.
Alors, il y a un moment où on va chez le gynéco, c'est quand on est enceinte.
Oui.
Et là, on remarque de plus en plus que les grossesses sont de plus en plus médicalisées,
oui.
En fait.
Oui.
Alors, une première grossesse, quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant, qui est un peu seule dans une ville qu'elle ne connaît pas, elle va chez le gynéco, on lui dit qu'il faut arrêter de fumer, c'est évident, de boire d'alcool, c'est évident, on va vérifier le diabète, il ne faudrait plus manger de sucre. Alors, cette prévention-là qui est omniprésente. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, il semble que pour des raisons... Enfin, il y a des arguments scientifiques pour le dire, que cette omniprésence et cette surmédicalisation de la grossesse n'est pas justifiée. Elle est encore extrêmement pratiquée en France, parce qu'en France, on a beaucoup de mal à regarder ce qui se fait ailleurs, et en particulier à entendre quand quelqu'un qui travaille là-dessus depuis très longtemps, je ne sais pas moi, aux Pays-Bas, ou en Scandinavie, ou en Angleterre, dit « Ben non ». Il n'y a pas lieu de surmédicaliser la grossesse, par exemple. Il n'y a pas lieu de faire un dépistage systématique du diabète gestationnel chez une femme enceinte, parce qu'on risque de tomber sur des résultats qui vont être limites. Et puis tout le monde a des résultats limites dans tous les domaines. Et de médicaliser, c'est-à-dire de commencer à embêter une femme, à lui donner un régime, voire à lui donner de l'insuline, alors que ce n'est pas nécessaire. Et que, alors en particulier, il n'y a pas très longtemps, il y avait quelqu'un qui avait sorti la liste des résultats de toutes les interventions qu'on peut proposer, que ce soit alimentaire, thérapeutique, etc., à une femme qui a soi-disant un diabète gestationnel. Et en fait, aucune de ces interventions, parce qu'il y a des gens qui les ont étudiées, ne change quelque chose au poids de naissance du bébé.
D'accord.
Aucune. 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 Et alors, le problème, c'est qu'évidemment, en principe, les professionnels de santé devraient se tenir à jour de ces notions.
De ces analyses.
Et puis dire aux patientes, écoutez, je ne vais pas vous proposer une méthode qui ne va pas marcher, d'une part, pour en plus un tout petit nombre de situations dans lesquelles vous allez peut-être être en difficulté et où il sera toujours temps de prendre des mesures si vous êtes en difficulté. Je ne vais pas faire de la pseudo-prévention pour pourrir la vie des femmes enceintes alors que ça ne sert à rien et qu'en fait, on peut très bien soigner celles qui, le jour venu, auront un problème. Et on souffre ici donc de quelque chose qui est le dogmatisme des médecins, c'est-à-dire que comme ils sont formés à faire certaines choses, on ne leur apprend pas, premièrement, à contester ce que leurs enseignants leur disent. Enfin, ça commence à se faire, mais pendant longtemps, on ne leur a pas appris à le faire. Et comme on ne leur apprend pas à contester ce qu'on leur a dit, ils ne supportent pas qu'on conteste ce qu'eux-mêmes disent. Et ils ne vont pas chercher l'information qui leur permettrait de... c'est vrai pour les femmes enceintes. C'est vrai pour la gynécologie courante. Je me souviens très bien que quand je me suis dit, j'ai beau être généraliste, je veux pouvoir poser des stérilets à des femmes qui me le demandent. J'ai appris à poser des stérilets et tous les médecins que je voyais poser des stérilets, chaque fois qu'ils posaient un stérilet, la femme, elle sautait au plafond tellement elle avait mal. Alors je dis, mais attends, on doit pouvoir poser des stérilets sans faire mal. Ah ben non, c'est comme ça qu'on fait. Ça fait toujours mal. Et puis tu sais, c'est les bonnes femmes, donc elles exagèrent.
Et puis la douleur.
Et puis la douleur,
la douleur, c'est normal.
Ouais, la douleur, c'est normal. Une bonne femme, elle souffre.
Elles sont habituées.
Voilà. Jusqu'au jour, j'ai dit, peut-être pas quand même. Enfin, bon, en tout cas, moi, ça me déplaisait foncièrement de faire ça comme ça. Donc, j'ai découpé les gestes. Enfin, j'ai espacé les gestes, les différents gestes qu'il y avait dans la pose du stérilet. Je me suis rendu compte qu'il y avait deux gestes qui faisaient mal. Et un, je ne l'ai plus fait, et le deuxième, je l'ai fait autrement, d'une façon qui faisait pas mal. Ouais, mais alors, j'ai entendu des réactions de gens qui disent « Mais enfin, c'est pas possible, c'est pas correct. » Je dis « Écoute, les femmes vont bien, le stérile est en place, elles ne sont pas enceintes, je pense que ça va passer comme ça, tu vois. » Et il n'y a pas besoin de s'énerver. Bon, alors, c'est ça le problème, c'est que non seulement on leur apprend à faire des gestes, mais en plus, on ne leur apprend pas à remettre en cause les gestes au vu de ce que ça fait aux personnes. Or, en principe, soigner, ça doit se faire. Voilà, un soignant, c'est quelqu'un, vous rentrez chez lui, quand vous sortez, vous allez mieux.
Normalement, ça devrait être ça.
Au moins mal, quoi. Donc, si, quand vous rentrez chez lui, que vous sortez et vous dérouillez, il y a quelque chose qui s'est passé qui n'est pas normal, quoi. Ça peut arriver une fois de temps en temps, dans des circonstances un peu exceptionnelles, mais la norme, ça ne doit pas être ça. Et ce ne serait pas ça si, précisément, on s'interrogeait systématiquement sur l'effet des gestes, ou l'effet des paroles, d'ailleurs, hein, ou l'effet de l'attitude, ou l'effet de la manière de recevoir, ou d'écouter, ou de ne pas écouter. Si on s'interrogeait systématiquement de façon un peu... comment dirais-je, méthodique sur ce qu'on fait, ça ne serait pas comme ça. En France, on n'a pas encore une culture qui permet à la majorité des médecins, encore une fois, c'est plus tout à fait vrai, il y a des jeunes médecins qui le font tout à fait, il y a des médecins moins jeunes qui le font aussi, qui les éduquent dans ce sens-là. On n'a pas encore la culture qui trouve ça systématique, enfin qui adopte cette attitude d'une manière systématique, c'est mesurer sa pratique à l'aune de la manière dont les personnes la ressentent.
Si on revient sur les femmes et leur parcours face aux médecins, alors on l'a dit, les femmes enceintes sont très surveillées. Une fois que le bébé est arrivé, un petit peu moins. Moi, j'ai fait l'expérience, hein, une fois qu'on a eu notre enfant, la séance de rééducation du périnée, par exemple, alors on a de plus en plus d'informations, mais il y a quand même une technique un peu barbare, hein, des sondes, sondes qui envoient des sortes de décharges électriques sur le périnée, c'est quand même plutôt violent. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, là encore, une stimulation électrique des muscles dans certaines circonstances pour un périnée qui en a besoin, ça peut être utile. Mais de toute manière, chaque technique qui est proposée devrait être proposée après avoir soigneusement écouté ce que la personne dit de l'état de son périnée et de ses gènes, et ensuite lui avoir proposé toutes les méthodes qui sont disponibles. Parce qu'il y a aussi des techniques d'apprentissage autonome, de rééducation personnelle, qui ne nécessitent pas de faire des décharges électriques ou de l'électrostimulation. Il y a des femmes qui ont des petits soucis après leur accouchement, et puis 3 mois après, c'est fini. Bon, il y a tous les cas de figure. Et donc, ce qui est problématique, c'est le fait d'avoir une attitude stéréotypée, dogmatique, vis-à-vis de toutes les femmes. Il faut se rappeler aussi que c'est pas la même chose selon qu'une femme a eu une épisiotomie, alors que les épisiotomies devraient rester exceptionnelles.
Ce qui n'est pas du tout le cas. On a regardé avec Joël une carte de France des maternités. Les chiffres sont hallucinants. Là, à Bourg-en-Bresse, je crois que c'est 44%.
À Bourg-en-Bresse, c'est 44%. À Besançon, c'est 2.
C'est ce qu'on a vu.
Voilà, à Besançon, c'est 2. Mmh. Et pour l'OMS, ça devrait être 2. Pour l'OMS, c'est-à-dire dans des pays émergents, où il n'y a pas de chirurgie. Non. Pour l'OMS, dans les pays d'émergence, c'est 2, ça devrait être 2, donc on ne voit pas pourquoi en France, ça ne serait pas 2. Mais non, là, en France, on a cette particularité que non seulement c'est très médicalisé, mais par exemple, il y a plein de choses qui sont interdites aux femmes enceintes, comme par exemple, tout simplement, d'accoucher accroupie, ou d'accoucher à quatre pattes, ou d'accoucher debout, si elles veulent. Non, il faut qu'elles soient allongées sur le dos, c'est-à-dire la position qui est la moins favorable sur le plan strictement de la gravité, pour qu'un bébé descende. Bon. Alors qu'en Angleterre, si vous regardez, j'aime beaucoup cette série, donc je la conseille aux auditrices et aux auditeurs, si vous regardez Call the Midwife, qui s'appelle SOS Sage-Femme en français, et qu'on trouve sur Netflix, je crois, SOS Sage-Femme, on voit 2 accouchements par épisode, et à chaque fois, elles accouchent dans des positions diverses et variées, et ça pose aucun problème à personne. C'est évidemment volontaire pour montrer que l'accouchement, c'est quelque chose de physiologique. Ça fait quand même quelque chose comme 2 millions d'années que les femmes accouchent, en gros. Bon, donc, et ça doit se passer de façon physiologique dans l'immense majorité des cas. De temps en temps, il faut intervenir, mais il y a des pays dans lesquels on laisse les femmes accoucher avec juste une sage-femme à côté. Et par exemple, il y a un camion en Hollande, c'est comme ça, il y a un camion médicalisé en bas dans la rue. Si jamais il y a un problème, ben, on la descend dans le camion et puis on fait, je ne sais pas moi, un geste. Mais autrement, on la laisse accoucher chez elle.
Oui, enfin, on parle. Il y a beaucoup d'articles en ce moment qui parlent de violence gynécologique. Hein, on parle de ce terme est souvent utilisé. En fait, ça veut dire quoi la violence gynécologique, ce dont vous venez de parler? On entend aussi parler, alors épisiotomie bien sûr, point du mari.
Oui, le point du mari, oh, c'est une horreur, le point du mari. C'est recoudre le après l'épisiotomie, recoudre le vagin un peu serré pour que ça soit plus agréable pour les rapports sexuels de l'homme. C'est une horreur absolue, c'est une ignominie. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que moi, je l'ai vu faire. J'entendais les médecins et les sages-femmes en parler, mais vous interrogez des gens aujourd'hui. Je pourrais être encore en exercice, j'exerce plus parce que je suis au Québec. Mais tout le monde dit non, mais c'est pas vrai, ça n'a jamais existé. Mmh. Il y a un déni extraordinaire. Ouais.
Et les violences, alors elles sont factuelles, mais elles peuvent être aussi des violences verbales, en fait.
Alors, les violences, c'est Marie-Hélène Lahaye, qui est une juriste belge et une autrice, qui a écrit un livre qui s'appelle Accouchement, les femmes méritent mieux, dans lequel elle décrit tout ça. Et sur son blog, elle avait décrit les violences gynécologiques et obstétricales en disant, c'est en gros, je simplifie, mais en gros, c'est tout geste imposé à une femme par un professionnel de santé ou une professionnelle de santé dans le cadre de n'importe quel soin gynécologique ou obstétrical et qui ne respecte pas d'abord son désir ou sa volonté et qui ensuite est inapproprié ou inutile ou imposé sur le plan médical. Bon. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cas de figure de quelqu'un qui est dans le coma et qui a besoin d'une césarienne parce qu'elle est dans le coma ou pendant qu'elle est dans le coma, on est dans le cas de figure d'une femme qui vient se faire examiner ou d'une femme qui accouche de façon physiologique et à qui on impose des gestes dont elle n'a pas besoin, à qui on parle de manière abrupte, brutale ou humiliante, à qui on fait peur, à qui qu'on n'écoute pas, etc. C'est-à-dire la brutalité, c'est effectivement aussi bien une brutalité comportementale qu'une brutalité instrumentale, si vous voulez. C'est pas seulement les gestes brutaux, c'est aussi « taisez-vous, madame ». C'est aussi « je ne vais pas écouter ce que vous avez à me dire, parce que de toute façon, c'est moi le médecin, c'est moi qui commande ».
Et c'est vrai qu'en préparant cette émission, du coup, moi j'ai commencé à repenser à toutes les expériences que j'avais eues. Et c'est vrai que 4-5 sont arrivées quand même rapidement, que ce soit au niveau des paroles, lors d'IVG par exemple, ou d'actes aussi. Donc c'est quelque chose d'assez commun, quoi.
Bien sûr, ma pose de stérilet, c'était exactement ça. J'ai eu très mal et on m'a dit que c'était normal et que... C'était pas si gros que ça, un stérileg, donc bon, ben voilà. Et une remarque aussi qu'on s'est faite avec Joël en préparant l'interview à propos de ce terme de violence gynécologique, moi je me suis dit, en fait, c'est un peu comme les violences policières.
Oui.
On peut pas dire l'expression violence gynécologique, on peut pas l'entendre, c'est pas possible.
C'est ça, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que face à une personne d'autorité, et ça c'est caractéristique de la culture française, hein. Alors je dis pas qu'il y a pas de violence gynécologique ailleurs, mais ailleurs, le terme de violence policière, par exemple, ou de violence gynécologique, c'est accepté. On dit oui, un professionnel de santé peut être violent, peut être brutal, et ça doit être dénoncé. En France, non, c'est comme si la personne d'autorité ne pouvait pas avoir tort quand elle fait quoi que ce soit. Donc quand vous voyez, par exemple, une vidéo vous montre un CRS qui se précipite sur quelqu'un qui est en train de rien faire, de se rincer le visage, et puis qui lui tape dessus... on dit, ah bah oui, il a fait ça, mais c'était pas exprès. Bah attends, excuse-moi, mais je veux dire, on le voit. Eh ben non, il y a une sorte de déni manifeste. Et vis-à-vis des médecins et des professionnels de santé qui font ça, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un médecin va parler de manière brutale ou faire un geste alors que la femme dit, non, je ne veux pas d'épisiotomie. Oui, mais vous allez avoir une déchirure. Bah peut-être, mais je préfère avoir une déchirure naturelle, je veux pas d'épisiotomie. Puis fait l'épisiotomie quand même, devant le mari ou devant la compagne. Et on dit, mais non, c'est pas vrai. Elle en avait besoin, elle n'a pas compris. Son cerveau ne devait pas être assez irrigué parce que tout le sang était dans l'utérus, comme disait le président du Saint-Gof. Voilà. Les représentants des instances nationales des gynécologues peuvent dire des ignominies comme ça. Ah oui, non, bah vous comprenez, une femme qui accouche, le sang, il va à l'utérus, donc elle n'en a plus assez dans le cerveau pour penser correctement. Ouais, c'est monstrueux.
C'est assez incroyable. Et dire qu'ils veulent retirer les sciences, la SVT, voilà. au niveau des
lycéens.
Donc, déjà, on ne sait pas exactement comment ça marche, mais s'il n'y a pas de cours, ça sera quand même pire. Là, on a lu, il n'y a pas très très longtemps, un article d'une journaliste qui s'appelle Cécile Andreïevski, je ne sais pas si vous connaissez, Silence sous la blouse.
Oui, oui.
Et elle parle des violences sexistes qui sont à l'intérieur de l'hôpital et donc des soignants hommes par rapport aux soignantes femmes.
Oui, bien sûr. Alors, le sexisme, il n'y a pas de raison de s'exercer que dans un seul sens, hein. Ou en tout cas seulement des médecins vers les patientes ou vers les soignés. Il s'exerce aussi à l'intérieur de la profession. Moi, j'ai été témoin indirect parce que quand j'étais témoin, en général, j'intervenais. Et puis des fois, je prenais des coups aussi. Mais j'ai été témoin indirect, c'est-à-dire l'auditeur de beaucoup, beaucoup de mes camarades, par exemple, de faculté de médecine sur les violences sexistes qu'elles avaient subies ou sur les pressions qu'elles avaient subies d'un patron ou d'un interne ou de quelqu'un qui était en position d'autorité, qui leur laissait entendre que leur carrière irait bien plus vite si elles passaient par leur lit, par exemple, ou qui d'ailleurs ne leur disaient rien du tout, mais tripotaient dans l'ascenseur ou faisaient des choses tout à fait inadmissibles. Et après, je l'ai entendu, mais tout le temps, je veux dire, j'ai toujours eu un pied dans l'hôpital, j'ai toujours eu des collègues ou des amis professionnels de santé, hommes ou femmes d'ailleurs, qui assistaient aux mêmes choses. C'est quelque chose qui est omniprésent et qui fait presque partie de la culture. C'est-à-dire, vous savez, il y a quelques années, il y a eu cette histoire des fresques pornographiques des carabins. Mm-hmm. Et alors, ils justifiaient ça en disant, bah oui, mais nous, on est confrontés à la mort et à la souffrance. Donc,
On peut rappeler que dans certaines pièces de garde,
Il y a des fresques pornographiques.
Il y a des fresques pornographiques.
Il y en a une, moi, qui m'avait beaucoup frappé. Il y avait un article de Slate qui montrait plusieurs photos. Il y en a une qui m'avait beaucoup frappé. C'était une représentation de toute tous les profs de l'époque où la fresque a été peinte. C'était un pastiche du sacre de Napoléon, qui en fait c'est pas le sacre de Napoléon, c'est quand Napoléon met la couronne sur la tête de Joséphine. Et sur cette représentation, le Napoléon, c'est un des grands, je sais pas si c'est pas le doyen ou un grand patron de l'hôpital en question. Toutes les femmes sont nues, toutes les figures de femmes dans le tableau sont nus. Les hommes, eux, ils sont en costume napoléonien, bien entendu. Et en fait, la Joséphine qui est agenouillée devant lui, il lui met une couronne sur la tête, mais elle lui fait une fellation en même temps.
Ah, d'accord.
Bon. Et alors, je me disais, mais comment est-ce que... Et tous ces gens-là, c'est leur vrai visage. Je me disais, mais comment est-ce que ces gens peuvent trouver honorable de se faire représenter comme ça ? Ça leur posait aucun problème. Moi, je sais pas, j'aurais été prof dans une fac, j'aurais vu ça, j'aurais dit, mais un, vous me virez le type qui a peint ça, et deuxièmement, vous me passez du blanc partout et je fais des excuses collectives. Enfin, c'est scandaleux. Eh ben non, ça paraît normal. Donc c'est vraiment une culture très ancrée, qui est vraiment française, parce que vous ne trouvez ça dans aucun pays. Dans aucun pays. Quelqu'un fait un dessin, ne serait-ce qu'inapproprié, ou un commentaire inapproprié sur un mur, dans une chambre de garde à Ottawa ou à Toronto, on retourne tout de suite qui était là dans la chambre ce soir-là, et puis on lui passe un savon lui disant, mais attends, un, tu dégrades le bien commun, deux, t'as pas à émettre des propos sexistes, et trois, qu'est-ce que c'est que tu t'imagines que parce que tu le fais dans la chambre, on va pas se demander si tu le fais pas avec tes collègues ou les personnes que tu soignes. Non, c'est inadmissible.
Et en fait, quel conseil est-ce qu'on pourrait donner aux soignants pour essayer de casser ce système, en fait ?
Alors, les soignantes et les soignants, il y en a qui participent pas à ça, et moi je dirais que c'est probablement très difficile pour les soignantes et les soignants qui participent pas à ça, mais qui sont pris entre deux feux, c'est-à-dire qui ont aussi du mal, des fois, à dénoncer ce genre de choses. Mais je dirais que les choses probablement changeront plus si ça vient de la population. C'est-à-dire que, par exemple, une consultation gynécologique dans laquelle on ne vous parle pas, on ne vous écoute pas, on ne répond pas à vos questions et vous fait mal, ça nécessite de, peut-être pas sur le moment parce que ce n'est pas toujours facile de le faire, mais de réagir en écrivant d'abord à la personne intéressée, en lui disant, écoutez, monsieur, madame, je n'accepte pas la façon dont vous m'avez traité, d'envoyer une copie de la lettre au directeur de l'hôpital s'il y en a un, d'envoyer une copie de la lettre à la sécu, éventuellement une copie de la lettre au conseil de l'ordre, c'est pas la peine d'aller porter plainte au Conseil de l'Ordre, parce qu'évidemment il y aura de la collusion très probablement, mais en tout cas à laisser entendre que on laisse pas quand même passer les choses comme ça. Et puis s'il y a quelque chose de plus grave, faut écrire au procureur de la République en disant je porte plainte contre monsieur ou madame. C'est-à-dire que je suis pas pour la judiciarisation de la société, ça me plaît pas, mais s'il n'y a que ça pour dissuader des gens de faire des choses qu'ils devraient pas faire, on va pas s'en priver quand même.
Mais là, c'est quand on est dans le rapport d'une personne extérieure à l'hôpital. Moi, ma question, elle était aussi au sein de l'hôpital. Alors, c'est compliqué, ça.
C'est compliqué au sein de l'hôpital, mais la seule chose qui permet au sein de l'hôpital de faire face, c'est de s'organiser. C'est-à-dire de pas rester seul. Je veux dire, c'est toujours la même chose. Les personnes, parce que quand vous avez un médecin ou un chirurgien abusif, soit par son comportement, soit par ses paroles... il n'y a jamais seulement une victime. Il y a toujours plusieurs victimes. Et là, il y a une responsabilité des personnes qui laissent faire, qui ne disent rien, qui est de s'organiser aussi avec les personnes qui sont le plus victimes de ça pour dire bah non, on ne va plus laisser faire. Parce que quand on se met à être plusieurs et à aller protester, c'est quand même plus compliqué de... Alors, après, je ne dis pas que c'est facile pour autant, parce que il peut y avoir... Je me souviens de l'hôpital du Mans. Un de mes confrères m'a raconté que dans, je ne sais plus si c'était au Mans même ou dans un hôpital périphérique, il y avait un chirurgien qui était alcoolique et qui arrivait pratiquement tous les matins au bloc opératoire dans un état d'ébriété avancé qu'il rendait évidemment non seulement extrêmement pénible et désagréable avec ses collègues, mais qui rendait les choses extrêmement dangereuses. Comme tout le monde le savait, alors que dans d'autres pays, on serait allé le voir et on lui aurait dit « Écoute, si tu veux prendre 6 mois et puis te désintoxiquer, on va te soutenir, on va pas faire de vagues, on va pas te salir ta réputation, on va te donner une chance de t'en sortir, on te soutient, tu retrouves ta place quand tu reviens, etc. etc. » En France, on fait pas comme ça. En France, on lui a petit à petit retiré son bloc, puis ses consultations, et donc on l'a acculé à vouloir demander un autre poste, et donc il a postulé ailleurs, et évidemment, on n'a pas prévenu l'hôpital dans lequel il a postulé. Bon, c'est-à-dire qu'on évacue le problème, mais surtout, on ne le traite pas de front. Ce qui veut dire que, un, il continue à... Parce que, dans ce cas-là, je pense que c'est quelqu'un qui devait souffrir. Une personne alcoolique, c'est une personne qui souffre. Donc, on l'a laissé souffrir, on l'a laissé faire souffrir les autres, mais on s'en est lavé les mains. Ça, à mon avis, c'est plus acceptable. Enfin, je veux dire, ça n'a jamais été acceptable, mais maintenant, on ne devrait même plus envisager de faire ça. Il devrait toujours y avoir... je pense que ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte, il devrait y en avoir de plus en plus à l'hôpital et les gens devraient s'organiser pour pouvoir effectivement lancer des alertes et dire non, là il y a un problème et ce problème il faut le régler.
Il y a des gens qui se regroupent et puis il y a des sites, hein, j'ai vu plusieurs Bien sites sûr. Justement, donc c'est en train de se faire. Si on en revient donc plutôt à des consultations hors hôpital, quand on lit vos livres, quand on vous écoute, vous dites justement que l'écoute est très très importante. Mais quand on entend les généralistes qui sont dans nos campagnes autour de nous, ils nous disent que c'est compliqué de joindre les deux bouts et que ils arrivent à peine à un petit SMIC. Donc s'ils écoutent, ils vont perdre encore du temps.
Alors ça c'est inhérent au fait que effectivement depuis un certain nombre d'années, la condition d'exercice des généralistes est extrêmement dégradée. On leur a rajouté des contraintes administratives en leur retirant des moyens et surtout en faisant pas, en améliorant pas leurs conditions de travail. Personnellement, je pense qu'un médecin généraliste, ça va en faire hurler beaucoup, mais je sais ce que je dis, un généraliste devrait pas être quelqu'un qui est payé à l'acte. Il devrait être salarié. L'intérêt d'avoir des cabinets médicaux...
Fonctionnaires, alors ?
Et les professeurs de médecine en CHU sont des fonctionnaires, madame. Donc, je ne vois pas en quoi ce serait déshonorant d'être un fonctionnaire en tant que médecin généraliste dans un... Et les instituteurs sont des fonctionnaires, les professeurs de faculté sont des fonctionnaires.
Non, ce n'était pas un gros mot, c'était pour...
Voilà. Et les postiers sont des fonctionnaires. Moi, personnellement, je n'ai pas du tout de mépris pour la fonction publique. Et je ne comprends pas, d'ailleurs, je sais bien que vous... Mais je ne comprends pas qu'il y ait une telle peur, un tel mépris. Parce que l'Angleterre a détruit son système de santé, mais il y a 15 ans... le système de santé anglais marchait très très bien et les médecins généralistes étaient salariés. Et ils disaient, on est très content d'être salarié parce que si on a besoin de passer 3/4 d'heure avec un patient, on passe 3/4 d'heure. Si c'est un patient qu'on voit d'habitude et qui a besoin de 5 minutes, on passe 5 minutes. Bon, après on leur a dit, non, maintenant il faut que vous envoyez 6 par heure. Donc là, ils étaient plus que... Bon, c'est le système qui leur a imposé. Mais j'ai exercé dans un centre de planification où j'étais payé des clopinettes pendant 25 ans.
Alors, des clopinettes, c'est quoi ?
Je sais pas, je crois qu'une vacation, c'était... c'est-à-dire, une matinée, ça devait être 250 euros.
D'accord.
Donc, c'est, par rapport au service qu'on rend, c'est pas beaucoup, quoi. Mm-hmm. J'avais encore 250, ça devait être à la fin, parce qu'avant, c'était pas ça. J'avais la chance, justement, comme j'étais salarié, et puis, que personnellement, c'était pas seulement ça qui me faisait vivre, que je pouvais recevoir des femmes, encore une fois, à trois quarts d'heure, si elles voulaient que je les reçoive trois quarts d'heure, si elles en avaient besoin, et puis je recevais d'autres femmes qui avaient besoin de 10 minutes, ou un quart d'heure, ou 20 minutes. Bon. Parce qu'il y a aussi une autre chose, c'est que, par exemple, si on impose aux gens, à chaque fois, si on ne voit la consultation médicale que comme un moment où il faut absolument faire déshabiller quelqu'un, à tout bout de champ. Je crois qu'il faut examiner les gens, hein. C'est pas que je pense que l'examen clinique ne sert à rien. Je crois que l'examen clinique, il n'est utile que quand on a quelque chose à regarder. Examiner systématiquement une femme qui vient pour son renouvellement de pilule tous les ans, c'est abusif, ça ne sert à rien. Surtout une femme jeune.
Mais ça m'interpelle. Enfin, moi, en lisant votre blog, j'ai découvert quelque chose. Je me suis toujours déshabillée, j'ai toujours été auscultée, peu importe je venais demander à mon gynéco.
Voilà. Et moi, quand j'ai commencé à travailler au centre de planification, au bout de, je pense, 3 ou 4 années d'exercice où je trouvais ça un peu lourd, je disais aux dames qui rentraient, attendez, asseyez-vous,
c'est ça, on a le réflexe.
Causer. Bah oui, c'est ce qu'elles avaient appris à faire aussi, parce que les médecins les incitaient.
Surtout qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, donc on arrive, on
se dézappe. Et alors je disais, attendez, asseyez-vous, parce que peut-être que ce n'est pas nécessaire que je vous examine. Alors, vous imaginez le soulagement.
Bah oui.
Et j'ai vu personne. J'ai exercé 25 ans. Il y avait le temps de me faire des reproches si je passais à côté de quelque chose d'important. Je n'ai jamais vu une femme venir me faire des reproches. Parce que quand les femmes me disaient, là, j'ai quelque chose, je voudrais que vous m'examiniez, bien sûr que je les examinais sur le champ. Mais je pouvais le faire parce que je n'avais pas passé ma matinée à examiner tout le monde pour rien.
Et est-ce que vous pensez que le fait qu'aujourd'hui en France les sages-femmes puissent assurer le suivi gynécologique, ça peut changer quelque chose?
Je pense que c'est très important. Il faut quand même garder à l'esprit que l'idée selon laquelle les gynécologues ont été seuls à assurer la santé des femmes, c'est un mensonge. Il y a à l'heure actuelle quelque chose comme peut-être 4000 ou 5000 gynécologues en France, et il y a près de 100 000 généralistes. Et il y a entre 10 et 15 000 sages-femmes dont certaines sont libérales. La médecine, la gynécologie a toujours été assurée par les généralistes, plus ou moins bien, parce qu'on ne les formait pas. C'est ça qui est scandaleux. On doit former les généralistes à la gynécologie courante. C'est eux qui ont affaire aux femmes en première ligne. Ça, c'est une chose. Les sages-femmes, bien entendu. Enfin, moi, j'ai commencé à former les sages-femmes à la contraception avant qu'elles aient le droit d'en prescrire, parce qu'au moins, elles pouvaient donner des conseils. Elles pouvaient donner des informations. Elles pouvaient soutenir les femmes dans leur choix. Bon, après, elles se sont mises on les a autorisées à prescrire de la contraception, et je trouve ça très bien. Je trouve même que les sages-femmes qui maintenant peuvent prescrire la pilule abortive devraient pouvoir aussi faire des IVG instrumentales, parce que les IVG instrumentales, c'est pas un geste technique très compliqué. D'ailleurs, pendant 20-25 ans, c'était essentiellement des généralistes qui les faisaient. Les gynécologues voulaient pas mettre leurs pieds dans les IVG. C'était les généralistes qui faisaient les IVG. Moi, j'étais généraliste dans le service où je travaillais. On était 7 généralistes et il n'y avait pas de gynécologue qui faisait les IVG toutes les semaines. Il n'y en avait pas. Bon. Donc, c'est pas des gestes très complexes. Donc, plus il y a de professionnels qui peuvent faire des gestes, qui rendent service à la population et qui les font de façon bienveillante et sans faire tout un cirque, mieux c'est. Donc, moi, je suis absolument pour la répartition des tâches entre tous les professionnels possibles, imaginables, étant bien entendu que tous les professionnels ne font pas tous les gestes. Il y en a qui font certains gestes plutôt que d'autres, qui sont plus attirés par une pratique plutôt qu'une autre, et que c'est correct. Enfin, ça me paraît tout à fait. Il vaut mieux faire des choses qu'on aime faire, parce que si on fait des choses qu'on n'aime pas faire, on les fera pas bien. Donc, bien sûr.
Ces deux dernières années, la parole de la femme a été plus relayée par les médias. On nous entend un petit peu plus, et puis notamment à cause de scandales, Balance ton porc, MeToo. Comment est-ce que vous ressentez ça? Est-ce que vous êtes un peu plus sollicitée? Est-ce que les questions sont différentes? Est-ce que vous avez constaté un changement par rapport à ça?
Il y a un changement parce que la parole circule. Il y a un changement parce qu'il y a beaucoup plus d'interlocuteurs et d'interlocutrices, surtout. Hein. Je veux dire, il y a des femmes qui ont écrit des livres, que ce soit Marie-Hélène Lake, que ce soit Mélanie Deschalottes ou Valérie Oslander sur les violences à l'intérieur aussi des études. Il y a beaucoup plus d'interlocutrices et d'interlocuteurs. Il y a beaucoup plus de... Il y a des réseaux sociaux avec des groupes qui s'organisent. Donc, moi, je suis très heureux. Je veux dire, je vois ça se faire. C'est très réconfortant de plus être une voix isolée. Et on était nombreux, mais on était isolés. Maintenant, il y a des réseaux qui nous unissent. Alors, je connais Marie-Hélène Lahaye, toutes ces personnes, je les connais, j'ai échangé avec elles. Il est évident qu'à ce moment-là, quand on peut fédérer un certain nombre de voix pour dire des choses qui sont convergentes, c'est toujours beaucoup plus efficace. Et il y a de plus en plus de personnes qui arrivent pour grossir le...
Du côté des médecins, vous pensez que ça change les choses aussi ?
Du côté des médecins, ça change les choses parce que les jeunes médecins, beaucoup de jeunes médecins, surtout dans une profession qui se féminise, ne voient pas du tout les choses de la même manière. Alors, on m'a dit, oui, mais toutes les femmes médecins ne sont pas féministes. Je suis d'accord. Mais si vous avez, si vous passez de 15% de médecins femmes à 80% de médecins femmes, vous avez augmenté aussi la proportion de féministes dans le lot, et de femmes qui voudront faire de la médecine bienveillante. Donc moi, je pense ça très bien, tout simplement parce que les problèmes qu'elles vont rencontrer auprès des patientes, ce sont des problèmes qu'elles ont eus elles-mêmes, ou qu'elles ont, qu'elles comprennent parfaitement, et auxquels elles peuvent adhérer. Quand il n'y avait que 15% de femmes parmi les médecins, ces 15% de femmes, et il y avait d'excellents médecins parmi elles, hein, venaient beaucoup plus souvent de milieux favorisés dans lesquels on s'identifie pas, par exemple, au problème des femmes qui viennent des milieux les moins favorisés. Quand vous augmentez la proportion de femmes, il y en a qui viennent de ces milieux-là et ça change aussi la répartition. Ça résout pas tous les problèmes, mais ça améliore quand même les choses.
Alors, Martin Hinclair, on a abordé plein de thématiques différentes. Si on avait à garder une thématique sur laquelle il faudrait vraiment qu'on travaille, quand je dis on, c'est nous, hein, là, on est dans une émission qui s'appelle Il n'y a pas que le 8 mars, qui est une émission plutôt féministe. Alors, sur quel thème vous nous conseilleriez d'assister ?
Je n'ai pas de conseils à vous donner, mais je crois que. Enfin, c'est. Quand ma compagne me fait un virement pour qu'on paye le loyer tous les deux, mais bon, il est tiré sur, c'est moi qui fais l'échec, donc elle me fait un virement de la moitié du loyer, elle le fait par la banque, et la banque, il faut répondre à une question secrète. Et alors sa question secrète, c'est quel est l'objectif, what is the feminist ideal, quel est l'idéal féministe? Et la réponse, c'est l'égalité. Et je pense que le maître mot, enfin moi c'est comme ça que je le comprends, le maître mot de toutes les luttes, hein, c'est l'égalité. C'est si on se bat pour l'égalité de tout le monde, c'est-à-dire pas seulement dans le cadre des genres, mais aussi l'égalité de classe, l'égalité aussi, l'accès à l'égalité aux mêmes soins des personnes handicapées ou de n'importe quelle personne qui est minorisée, on peut pas mal faire, je veux dire. Ça devrait, enfin c'est simple, c'est assez simple comme objectif.
Un sacré challenge quand même.
C'est simple comme idée,
c'est ce qu'on fait, mais voilà, ça va pas restreindre.
Non, ça va pas restreindre le.
Thème.
Voilà, ça restreindra pas les thèmes, mais je pense que là on peut pas vraiment se tromper. Et on peut faire ça, et je crois qu'on peut faire ça tous les jours. Tout le monde peut faire ça tous les jours, parce qu'il n'y a pas de petits pas, il me semble. Je donne toujours cet exemple d'une jeune femme, la première jeune femme qui n'avait pas d'enfant, elle avait 20 ans, à qui j'ai posé un stérilet, après le lui avoir proposé, alors que je le proposais à tout le monde, mais personne n'en voulait parce que c'était en 94, elles avaient toutes peur et je respectais cette peur. Et elle pouvait pas utiliser une autre méthode, ou en tout cas une autre méthode efficace. Et alors elle me dit, mais bon, vous êtes sûr que c'est pas dangereux? Je dis, oui, je vous affirme que c'est pas dangereux. Il n'y a qu'en France qu'on dit que c'est dangereux, dans les pays en développement, c'est monnaie courante, etc. Elle me dit, ben banco, allons-y. Puis de toute façon, si ça va pas, vous me l'enlevez, bien sûr. Je dis, oui, si après-demain vous me dites de vous l'enlever, je vous l'enlève après-demain, c'est pas un problème. Puis je l'ai suivi pendant 15 ans. Elle s'est fait retirer son stérilet, elle a eu une grossesse, elle en a refait mettre un autre, elle a eu une grossesse, etc. Bon, elle a eu deux grossesses et trois stérilets pendant 15 ans, quelque chose comme ça. Et elle revient une dernière fois pour se faire changer son stérilet une dernière fois, et elle me dit, si vous ne me l'aviez pas posé, j'aurais pas pu avoir les enfants quand je voulais, j'aurais eu peur tout le temps, parce que j'aurais eu peur tout le temps d'être enceinte, ça aurait donc pas été bon pour ma vie personnelle, j'aurais pas pu faire la formation que je voulais, bref, j'aurais pas eu la vie que je veux. Ce qui veut dire qu'avec, comme je dis, un foutu bout de plastique avec un bout avec du cuivre autour, la vie de cette femme a été changée. Bon, donc on peut faire des choses considérables individuellement avec des tout petits gestes. Et je pense qu'il faut véritablement se poser la question de comment est-ce que je peux apporter ma contribution à l'égalité, par exemple, ou à l'autonomie, par des petits gestes qui ne sont pas forcément spectaculaires, mais qui vont véritablement apporter un plus à la vie de chacun. Et je crois qu'il y en a beaucoup, on peut en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais on les voit pas, on n'y pense pas, ou on pense qu'ils n'ont pas de valeur. Non, mais si, ils ont de la valeur. Il n'y a pas de petits pas, il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas de petites contributions à ce genre d'engagement.
Sachant que vous veniez, Élodie a posé son micro et auprès de différentes personnes qui étaient autour de nous, on avait quelques questions d'auditrices. Si vous voulez bien vous y prêter.
C'est une question très technique. Première question, c'est aujourd'hui, pour plusieurs raisons, des femmes choisissent d'accoucher chez elles. Qu'en pensez-vous ? Vous avez déjà un peu répondu.
Je pense que c'est leur droit le plus strict. Et souvent, les femmes qui font ça, elles ne font pas ça comme ça sur un coup de tête. Elles ont étudié le sujet. Il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu une femme qui avait accouché pour la troisième fois, qui est d'origine marocaine, et qui a expliqué que les deux premières fois, elle avait accouché à l'hôpital. Elle voulait accoucher chez elle la troisième fois. Et elle avait appris quand même comment ça se passait, l'accouchement. Mais comme elle voulait mettre toutes ses chances de son côté, elle a téléphoné à sa grand-mère, enfin à sa mère, qui elle-même a parlé à sa grand-mère, qui était sage-femme traditionnelle au Maroc et qui avait accouché seule de ses 6 enfants. Elle a dit, voilà, tu vas lui poser les questions auxquelles je voudrais une réponse. Donc la mère a fait l'intermédiaire avec le téléphone cellulaire, etc. Puis elle a accouché chez elle avec son mari à côté, et puis voilà.
Autre question. Je suis une jeune femme, je n'ai pas d'enfant, je ne souhaite pas prendre la pilule, je ne veux pas ingérer des hormones ou des produits toxiques. Quelle contraception me conseillez-vous ?
Un stérilet au cuivre.
Donc il n'y a pas de danger,
non.
On ne devient pas stérile
non.
En mettant
j'ai posé
un stérilet.
Mais non,
stérilet.
Non.
Non mais
c'est
le
un
nom
très mauvais...
stérilet.
Ben voilà, c'est un très mauvais nom. On devrait dire un DU, un dispositif intra-utérin. Un utérin, d'ailleurs, je dis DU. J'écris DU dans mes articles. J'ai posé des DU à des femmes de 14 ou 15 ans qui ne pouvaient pas prendre la pilule parce que ça se voit quand on prend la pilule, quand on est chez soi, qu'on a 14 ou 15 ans, qu'on a des relations sexuelles. Ben, ça allait très bien. Et elles oublient. Alors c'est, en plus, c'est formidable parce que une femme à qui on pose un DIU, la fréquence du frottis, c'est à partir de 25 ans tous les 3 ans. Donc une femme de 15 ans à qui on pose un DIU, on la revoit 10 ans plus tard. On peut lui laisser le DIU 10 ans. Si elle n'a aucun souci, elle n'a pas besoin de revenir voir le médecin.
Pas 3 ans alors ?
Non !
Pas 5 ans ?
Non.
Mais c'est ce qu'on nous a dit.
Parce que c'est ce qui est marqué sur les trucs, mais en fait, tout DIU au cuivre, et maintenant il n'y a plus que des DIU au cuivre qui ont plus de 375 mm² de surface de cuivre, peut être gardé au moins 10 ans.
Et pour les hommes, est-ce que c'est une bonne idée de travailler à une contraception masculine ?
Bien sûr, c'est une bonne idée. C'est plus compliqué parce que la contraception féminine, en particulier la contraception hormonale, est fondée sur le fait que une ovulation n'a lieu qu'une fois par mois et pendant un délai très court. Donc on peut mettre en sommeil cette ovulation en donnant un traitement hormonal qui fait croire au corps de la femme qu'elle est enceinte. Donc elle ovule pas parce qu'elle est enceinte artificiellement. Bon. Mais les hommes, ils fabriquent des spermatozoïdes tout le temps. Et ça, c'est plus compliqué. C'est-à-dire trouver une méthode qui diminue le nombre de spermatozoïdes juste en dessous du seuil où c'est véritablement fécondant, mais qui n'a pas un effet anti-hormonal au point que ces hommes ne peuvent plus avoir de relations sexuelles du tout, ce qui est quand même un petit peu problématique à la fois pour eux et pour leurs partenaires, c'est compliqué. Alors apparemment c'est en train de venir, il y a des gens qui sont en train, mais c'est encore expérimental, et ils sont en train de mettre au point, j'ai lu il n'y a pas longtemps, la mise au point d'un endogène progestatif qui fait les deux en même temps. Il va falloir qu'ils trouvent à peu près la dose, il va falloir qu'ils le testent sur beaucoup beaucoup de gens pour savoir chez qui ça marche, chez qui ça marche pas, parce que c'est toujours la même chose, c'est comme la pilule, il y a des femmes qui la supportent pas. Mais bien sûr, je pense que c'est une bonne idée, bien sûr que c'est une bonne idée. Cela étant, excusez-moi si je peux me permettre d'en rajouter, cela étant, c'est une bonne idée pour les hommes qui vivent seuls, c'est une bonne idée pour les couples qui s'entendent bien, dans lesquels il y en a un peu ras-le-bol, que ce soit toujours la femme qui s'en occupe, c'est pas une bonne idée pour les femmes, enfin c'est pas une bonne idée, ça ne rendra pas service aux femmes qui vivent seules. Parce qu'une femme qui vit seule aura toujours intérêt à avoir sa propre méthode et à contrôler elle-même.
Être autonome elle-même.
Être autonome elle-même. Mais ça rendra service à plein de gens quand même.
On parle de la ménopause comme un moment où les femmes ne souffriraient plus, elles n'ont plus leurs règles. Mais en fait, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Oh mon Dieu, il faudrait des heures. Non, c'est pas vrai parce qu'on peut avoir... D'abord, il y a toutes les femmes... toutes les femmes qui atteignent la ménopause, il y a des ménopauses, il n'y a pas une ménopause, il y a des femmes qui ont très peu de symptômes, il y en a qui ont des symptômes monstrueux plusieurs années avant d'être ménopausées, et encore 2 ou 3 ans après. Il y a des femmes qui ont des complications, il y en a qui n'en ont pas. Enfin, je dirais que c'est vraiment au cas par cas. On ne peut pas vraiment généraliser. Mais cela étant, ça dépend aussi beaucoup de la vie antérieure de cette femme. Comment elle a vécu les différentes étapes physiologiques de sa vie. Comment ça s'est passé, comment on l'a traité, comment on l'a écouté, etc. Je crois que c'est... C'est comme le reste, hein, c'est au cas par cas.
Et alors, pour étant donné que c'est un sujet énorme, vous auriez un ouvrage ou vous auriez quelque chose à
sur,
nous conseiller?
Sur la ménopause?
Ah oui, qui pourrait être conseillé. Et puis,
À l'heure actuelle, en français, j'en vois pas.
Parce qu'il y a plein de choses, mais ouais, bon, ouais, après...
Il y a plein de choses, mais non, je vois pas d'ouvrage de synthèse sur le sujet, parce que c'est un sujet tellement vaste et tellement... controversé. Je pense qu'il doit y avoir des livres sur le sujet en langue anglaise, mais en langue française, j'en vois pas.
Bon, ben, quand vous en trouverez, vous nous
ferez
un petit mail.
Je le ferai connaître, oui.
On entend parler de l'endométriose.
Oui.
Qu'est-ce que c'est et pourquoi on n'en parlait pas avant?
Alors, l'endométriose, c'est une maladie, en fait, la paroi intérieure de l'utérus. C'est ce qui se détache quand les règles viennent. Et en fait, c'est une paroi faite de cellules qui sont faites pour accueillir une grossesse. Et tous les mois, quand il n'y a pas de grossesse, cette paroi se détache comme une mue, comme la mue d'un animal, se détache pour pouvoir rafraîchir les cellules, pour qu'elles soient à nouveau, entre guillemets, immunologiquement fraîches pour accueillir une grossesse éventuelle. Cette paroi, parfois, il arrive, chez un certain nombre de femmes, on pense que c'est à peu près 10% de la population féminine.
Ça fait beaucoup quand même.
Ça fait beaucoup. Il arrive que des cellules qui participent à cette paroi se trouvent ailleurs qu'à l'intérieur de l'utérus. Donc, ce qui se passe au moment du cycle, c'est que ces cellules se gorgent de sang. Et puis, quand les règles viennent par l'utérus, évidemment, ce tissu qui est ailleurs que dans l'utérus saigne, mais il ne peut pas être évacué puisqu'il n'est pas dans l'utérus. Et il provoque une inflammation autour de ce saignement. Et il peut y en avoir sur les ovaires, sur les trompes, mais ailleurs, dans l'abdomen. Enfin, il y a même, dans de rares cas, on en a même trouvé dans le cerveau. On ne sait pas exactement comment ça se passe. Il est possible que ce soit une anomalie embryologique. C'est-à-dire que ces cellules qui... Toutes les cellules dans l'embryon vont migrer vers l'organe dans lequel elles doivent se rassembler. Mais il arrive parfois qu'il y ait des erreurs de migration et que donc il y ait des cellules comme ça qui aillent migrer ailleurs. Ça donne l'endométriose. Ça a l'air d'être quelque chose... Donc c'est quelque chose de très fréquent. On n'en parlait pas avant parce que, évidemment, quand les femmes ont mal, surtout pendant leurs règles et après leurs règles, et pendant très longtemps, elles entendent dire « moi j'ai eu mal, donc toi c'est normal que tu aies eu mal », les mères aux filles, et puis les médecins aux femmes « vous avez mal, mais c'est normal ». Or, non. Avoir des saignements quand on a ses règles, ça c'est physiologique, mais avoir mal, c'est pas physiologique. C'est-à-dire que la douleur indique qu'il se passe quelque chose qui n'est pas normal. Et donc, on ne devrait jamais passer sous silence les douleurs que ressentent des femmes de n'importe quel âge, mais ça peut commencer très tôt, ça peut commencer à la puberté, ça peut commencer un peu plus tard, que ressentent des femmes quand elles ont leurs règles. Si elles ont vraiment très mal et que ça les handicape au point, par exemple, qu'elles ont mal après les saignements, après que les saignements ont fini, voire plusieurs 15 jours dans le mois, ce n'est pas normal. Et il faut les croire, évidemment, parce que si on ne les croit pas, on ne pourra pas les soigner. Et c'est ça le problème, c'est que le plus souvent, pendant très longtemps, on ne les a pas crus. L'exemple le plus connu, c'est Marilyn Monroe. Marilyn Monroe avait une endométriose, et elle passait pour être une enquiquineuse, parce qu'il y avait des jours où elle n'allait pas tourner, en disant « je ne peux pas aller tourner », en disant « ah oui, la diva », etc. Mais non, c'est parce qu'elle était pliée de douleur. Et on le sait maintenant, parce qu'on a eu accès à ces... dossiers médicaux longtemps après sa mort et que des biographes l'ont expliqué. Elle a été opérée 4 ou 5 fois pour son endométriose. Et donc, et en plus, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et deux, elle disait, c'est quand même assez ironique et cruel parce que je suis un sexe symbole, mais moi, quand j'ai des rapports sexuels, j'ai mal. J'ai aucun plaisir. Donc, c'est une maladie dont on parle maintenant parce que maintenant, on reconnaît enfin qu'une femme qui a mal au moment de ses règles, c'est sérieux. C'est pas quelqu'un qui se plaint pour rien. D'abord, on devrait toujours croire quelqu'un qui dit qu'il ou elle a mal, parce que la douleur, c'est un truc personnel. Ça ne peut pas être mesuré par quelqu'un d'extérieur. C'est seulement vous qui pouvez le dire. On devrait toujours les croire. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui croient les femmes qui disent qu'elles ont mal. Et là, on se rend compte que l'endométriose, c'est très répandu.
Et dernière question, par rapport à l'avortement, des élus de gauche souhaitent la suppression de la clause de conscience. Elle permet au personnel soignant de ne pas pratiquer d'avortement. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que la clause de conscience est trop, parce que c'est déjà le cas. La plupart des gens qui pratiquent des IVG dans les centres d'IVG sont volontaires, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas d'objection. Et deuxièmement, aucun médecin n'est tenu de s'occuper d'une personne s'il ne veut pas s'en occuper. Simplement, il est obligé de dire « je ne peux pas m'occuper de vous » ou « je préfère ne pas m'occuper de vous », mais je vous adresse à quelqu'un qui le fera. Et en fait, les médecins qui utilisent leur clause de conscience, ils l'utilisent pour faire obstacle à l'IVG, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Leur clause de conscience, elle est censée les protéger, elle n'est pas censée opprimer les autres. Donc oui, cette clause de conscience est de trop. Et encore une fois, il faut la supprimer parce que faut arrêter que des gens l'invoquent pour tout et n'importe quoi. Ça ne contraindra nullement des gens qui ne veulent pas les faire à les faire, parce que il y aura d'autres volontaires qui eux voudront les faire. Et deuxièmement, il ne faut pas obliger des gens qui ne veulent pas faire quelque chose à le faire, ils le feront mal. Mais au moins, ils diront plus n'importe quoi tout le temps en disant oh ouais, je suis une personne noble, j'invoque ma clause de conscience. On arrête de dire des bêtises. C'est idéologique, c'est pas une clause de conscience. C'est juste, je suis pas d'accord. Et puis c'est tout.
Ah ben merci beaucoup, Martin Vinclair. Et puis comme c'est votre nom d'écrivain, il me semble que vous venez de sortir un dernier livre, là.
Oui, qui s'appelle L'école des soignantes, qui est un roman qui invente une école dans le futur, dans laquelle on forme les soignantes, et tout le monde est une soignante, même les hommes, à soigner avec bienveillance et en essayant de faire le moins de mal possible.
Oh, mais ça va exister, c'est sûr.
J'espère.
On y croit.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Je dors avec, j'en rêve la nuit. Ils sont ma mec, ma seule jolie. Quand je les vois sous toutes leurs facettes, taillées en rose ou en navette. Faites, c'est mon credo.
La roqueuse de diamants, Catherine Lara, un petit saut dans les années 90 avec Martin Vinclair qui aime bien cette chanteuse. Vous êtes sur Radio B, il n'y a pas que le 8 mars. Il fallait que je vous le dise, de Aude Mermillot. Aude Mermillot est auteure et dessinatrice. Elle invite Martin Vinclair dans la BD qu'elle vient de sortir, Il fallait que je vous le dise. Elle y raconte ce qu'elle a vécu quand elle s'est retrouvée enceinte alors qu'elle était sous contraception. C'est évident, ce n'est pas le moment voulu. Évident, non, c'est pas vraiment évident, c'est jamais évident. Entre les conseils des uns et des autres, les avis péremptoires de certains, une femme est seule à prendre la décision d'interrompre volontairement une grossesse ou non. C'est ce qui se passe avant, pendant et après aussi qui a conduit Aude Mermillot à écrire et à dessiner ce livre. Elle a invité Martin Vinclair dans la deuxième partie de cette BD. Elle avait fait appel à lui pour essayer de comprendre ce qui lui était arrivé. Le médecin raconte comment lui, il a mis du temps à prendre en considération le mal des femmes, comment il a fait pour savoir leur douleur, comment il s'est mis à leur place, si on peut dire. Il fallait que je vous le dise, édition Casterman, une bonne BD à lire. Et pour terminer, je ne peux que vous proposer d'aller flâner dans les pages des romans de Martin Winkler. Et si vous avez une question sur la contraception, je vous conseille son blog, martinvinkler.com. Notre émission touche à sa fin. Vous venez d'écouter « Il n'y a pas que le 8 mars », une émission animée aujourd'hui par Joël Garraud et Élodie Gadiolet. Merci à Pauline pour la technique aujourd'hui à la console. Nous nous quittons avec Joni Mitchell lors d'un de ses derniers concerts au festival de Luminato à Toronto. Joni Mitchell est une artiste canadienne proposée par notre invité Marc Zaffran, alias Martin Winkler. Vous pouvez réécouter cette émission sans modération en podcast sur www.radio-b.fr. Bonne soirée à tous sur Radio B. Faded out with ragtime blues. Memories crossed the lines. And he's standing in the park with his trumpet in his hand, one piece, listening back to the good old bands and the click of high-heeled shoes. Orpheus sings the blues. He's propped up in his bed. And his leg removed. And Jenny's there, there out of kindness, there for fear. She's the old man's angel overseer. Sideshow spiel, but there was one song he played. I